vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous les autres.
Aujourd'hui, un sommaire habituel, geek et assez ludique, où nous allons passer...
Habituel, c'est-à-dire qu'on l'a fait 5 minutes avant l'émission?
Mais non, pas du tout. Il est préparé depuis plusieurs jours avec des musiques forcément de qualité et un... Alors, c'est pas forcément un album découverte, c'est un YouTuber découverte ici, une chaîne YouTube découverte qu'on va profiter à... Ça risque d'être assez intéressant. On va vous parler aussi de personnalités telles que John Romero, Elon Musk, ça fait longtemps. Voilà, plein de petites choses au sommaire. Et pourquoi pas tout de suite attaquer par l'agenda. Alors, au niveau ludique, ça se passera très bientôt, puisque c'est pour le mois d'août, donc fin août. Nous aurons le Bruxelles Game Festival qui va avoir lieu.
Oui et non, enfin non, c'est en version... Enfin, il a commencé de... Pendant tout l'été, en fait. Parce que normalement, effectivement, c'est fin août, pendant 2-3 jours, dans le parc du cinquantenaire, où il y a des milliers de gens qui passent, etc. Mais bien sûr, avec le Covid, c'est pas possible. Donc, du coup, ils ont fait une version un peu dématérialisée. Le Bruxelles Festival mobile, on va dire, en déplacement, donc dans plein de cafés, etc. Puis en ligne, bien sûr. Mais donc, ils n'ont pas pu maintenir l'événement tel quel. Par contre, ils maintiennent un truc qu'on aime bien à chaque fois qu'on y va, c'est la bourse au jeu.
Tout à fait.
Ah oui. Je me rappelle que la première fois où ils ont mis ça en place, c'était encore l'ancien emplacement dans les petits trucs, c'est une toute petite école, une école primaire, et t'avais quelques tables et quelques vendeurs et puis tous les gens qui avaient apporté leur jeu en dépôt-vente, etc. On avait fait quelques bonnes affaires, je crois. Et c'était tout petit, quoi. Et puis ça a grossi, il y avait plus en plus de monde qui était intéressé. Puis les dernières fois, il y avait une tente entière dédiée rien qu'à ça, et avec une organisation au point où il fallait apporter tes jeux à l'avance avec ta liste prête, etc.
Mais même pour acheter des jeux, il fallait attendre.
Ah oui, c'était filtré, tu pouvais pas rentrer qu'un certain nombre de personnes dans la tente à la fois. Enfin, c'était vraiment
énorme. Tu pouvais louer une table si t'es vendeur professionnel ou pas, avec... Mm-hmm. Si tu avais plein de jeux, effectivement, il y avait des professionnels qui vendaient beaucoup de jeux, ou juste les déposer en dépôt-vente, c'est l'équipe qui se chargeait de les vendre. Les jeux qui n'étaient pas vendus, bah, tu les récupères à la fin, ou tu les offres à une association, et puis ils prennent 10%. Donc ça, c'est toujours en place, donc c'est donc le samedi et le dimanche. On peut déposer ces jeux soit le samedi matin ou le dimanche matin en faisant, et même le vendredi soir si on vient à l'avance, et on les récupère quand on veut. Peut-être que je vais y aller, je verrai bien, j'ai tellement de jeux à me débarrasser, on va dire. On verra bien. C'est juste un prétexte pour aller à Bruxelles.
En tout cas,
histoire d'échanger des jeux contre de la bière.
C'est ça. C'est vrai que ça permet de faire des bonnes découvertes. Alors, autre que ce type d'événement pour échanger des jeux, alors c'est vrai qu'il y a des plateformes assez connues de vente et d'échange, mais une qui n'était pas forcément très réputée, mais pourtant qui fonctionne très bien au niveau des joueurs, c'est Ocaseo. Qui reste un site assez sympa pour faire des bonnes offres sur les jeux de société.
Je crois qu'il n'y a que du... Enfin, c'est la référence, parce qu'il n'y a que du jeu de société, je pense.
C'est ça, parce que... quelques jeux de rôle, quelques bouquins,
moi, bêtement, mais vraiment... j'allais sur un grand site connu, hein, un bon coin, et c'est vrai que...
Je pensais plutôt à une baie, moi.
Ah, c'est encore différent. Je trouve que eBay, ça sera peut-être plus pour avoir des choses de collection et faire des enchères.
Et peut-être chercher à l'étranger les pièces encore plus rares ou plus chères, voilà.
J'ai remarqué que sur Ocaseo, on fait des meilleures affaires ludiques comparées à Le Bon Coin, par exemple.
Peut-être, au niveau prix, je ne sais pas, mais tu sais que c'est des joueurs qui viennent y chercher et vendre les jeux, leur collection. C'est connu. Hein. C'est connu, ça commence à être connu en dehors des jeux du domaine des joueurs, mais avant, c'est principalement des joueurs, des passionnés qui y allaient, et de plus en plus.
Et le but, c'est de vendre un jeu pour en racheter un juste derrière, généralement. Hein.
Voilà, tu fais tourner ta ludothèque, en fait.
Je préfère aller là, moi, ou les vendre directement à... Parce que tu peux choisir, effectivement, soit de les envoyer ou de les donner de la main à la main. Mais, parce que moi, je préfère que mes jeux, je m'en débarrasse pour faire de la place, pas forcément de l'argent. Mais j'aime bien qu'ils aillent chez des gens qui vont y jouer, quoi. Que ça soit des passionnés ou pas.
Après,
j'ai pas envie de les vendre de façon anonyme et c'est tout, quoi.
Et après, il y a également l'option de faire don de ces jeux. Absolument. Il y a plusieurs associations. Si vous réécoutez nos podcasts, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs sites qui vous permettent justement de faire bénéficier. Absolument.
Parce qu'il y a toujours l'opération Meeple Solidaire. Donc, il suffit d'aller sur meeplesolidaire.com qui est en cours. Alors, c'est en Belgique parce que c'est pour aider les gens qui ont connu les catastrophes, les inondations il y a quelques semaines, pour leur donner des jeux, pour leur remonter un peu le moral, on va dire. Et donc, ça marche en Belgique, mais aussi en France, à Lille, par exemple, là où on est, il y a quelques boutiques qui récupèrent les jeux pour les envoyer en Belgique gratuitement.
Alors, je vous propose, avant d'attaquer, puisqu'on a plusieurs thèmes, alors notamment sur le jeu vidéo, peut-être d'ouvrir avec une petite musique, puisqu'on en a plusieurs, donc je préfère prendre de l'avance. Alors, ce sont, comme d'habitude, des musiques qui sont liées à un thème, et ici, ça va être un thème hommage, puisqu'on va faire, on va tirer notre chapeau à Raoul Covin, qui nous a quittés à l'âge de 82 ans, et qui a quand même marqué l'univers notamment de la BD.
Absolument, ici. C'est pas un dessinateur, c'est un scénariste. Et il était entré aux éditions Dupuis en tant que lettreur. C'est un métier, je ne sais pas s'il existait encore. Il n'était pas dessinateur ni écrivain à la base, mais en tant que lettreur, c'est ça. Puis il a fini en tant que scénariste sur des BD très 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 connues. La plus connue étant Les Tuniques Bleues, bien sûr.
Alors, c'est-à-dire quoi, lettreur? Il faisait juste les lettres?
Non, quand les dessinateurs dessinent au crayon, ils dessinent les personnages, les contours, les décors, etc. Et ils mettent des bulles pour les dialogues. Mais c'est pas eux qui vont faire les dialogues. Et donc, c'est un lettreur qui récupère ça, qui a une belle écriture donc à faire, un crayon fin, et qui a les dialogues sur une feuille de papier à côté, et qui va faire les lettres dans les bulles, etc., aux bonnes tailles, etc. Il y a aussi des coloristes comme métier, parce que les dessinateurs font pas forcément les couleurs. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les couleurs pour mettre les aplats de couleurs ou pas, quand il y en a besoin.
Et après, ils ont été remplacés par le comics en MS, c'est ça?
C'est ça, pas forcément, mais maintenant, effectivement, c'est tout mon travail sur informatique. Donc, les lettres sont bien régulières, faites par le logiciel. Il y a le PAO, etc. Oui.
Alors, nous avons choisi une musique par rapport à des œuvres assez célèbres sur lesquelles il a pu scénariser, ou en tout cas certaines histoires. Alors, est-ce que vous voulez peut-être ouvrir? Je vous laisserai choisir la première. Moi, je voulais ouvrir avec Les Tuniques Bleues, mais vous voulez garder Eddie Mitchell pour la fin.
Oui, mon vieux Eddie.
Alors, peut-être... Est-ce que vous... Alors, vu que je viens de citer les...
Tu es encore vivant à l'heure où on parle. Enfin, je vais aller vérifier.
Donc, je vous le tease tout de suite, la fin d'émission, nous aurons droit à un morceau de qualité avec Eddie Mitchell, avec Les Tuniques Toujours. Bleues et les Indiens. Ceci dit, Les Tuniques Bleues, ça nous fait penser à nous, fans de jeux vidéo, à un jeu qui était sorti sur Atari et sur Amiga.
Et sur PC aussi, et peut-être même d'autres plateformes encore. Peut-être que sur Amstrad, j'y ai joué.
Qui avait eu même un remake, puisqu'on en a parlé lors d'une...
Enfin, un remake, un assassinat. C'est peut-être pour ça qu'il est mort, Raoul Covin. Il n'a pas supporté qu'on fasse ça de son œuvre.
En tout cas, le premier opus était excellent, et
Je crois qu'on y a passé des heures.
On pouvait jouer à deux joueurs.
On peut jouer l'un contre un.
Incroyable. Alors, vous voulez commencer peut-être par Les Naufragés?
Allez, c'est parti. Donc, Les Naufragés, c'est une des séries aussi auxquelles Raoul Covin a participé, avec Les Psys, Les Blouses Blanches, je pense que c'est la plus connue, la série sur les infirmières.
Et un morceau qui correspond assez bien à Radio Campus, on va s'écouter Strolade.
C'est un groupe de ska celtique, j'ai découvert ça, magnifique.
Ça promet. Avec forcément un morceau qui s'appelle Les Naufragés. Parfois vous changez en cannibale, oh, oh, oh.
avec pour seul outil leur instinct de survie. Le génie inventif de tous ces robinsons qui reprendront les gestes de l'homme de Cro-Magnon. Reprendront les gestes de l'homme de Cro-Magnon. Laissé sur l'île de l'Ascension, le sodomite perd la raison. Pour avoir péché par derrière, il va payer même son prix cher. Cette terre lui sert de prison, ce n'est pas le jardin. Avec pour seul outil leur instinct de survie, le génie inventif de tous ces robinsons qui reprendront les gestes de l'homme de Cro-Magnon. Échoué sur une île déserte, avec pour seul outil leur instinct de survie, le génie inventif de tous ces robinsons qui reprendront les gestes de l'homme de Cro-Magnon. Échoué sur une île déserte, avec pour seul outil leur instinct de survie, le génie inventif de tous ces robinsons qui reprendront les gestes de l'homme de Cro-Magnon. Avec pour seul outil leur instinct de survie, le génie inventif de tous ces robinsons qui reprendront les gestes de l'homme de Cro-Magnon.
Sur Radio Campus 106,6 FM et DAB+, ou sur notre site campuslille.com dans l'émission Heureusement en France. On s'écoutait Strolade avec Les Naufragés.
Donc, Les Naufragés, c'est une série des années 70 où Raoul Covin a collaboré avec Claire Bretéché.
C'est une de ses premières BD d'ailleurs.
Absolument. Et tout à l'heure, je disais Les Blouses Blanches, mais la série s'appelle Les Femmes en Blanc. Les auditeurs de Campus seront corrigés, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que si vous aimez la BD, sur Radio Campus, tous les mercredis à 18h30, il y a une émission qui s'appelle de 18h à 18h30, pardon, une émission qui s'appelle Il est l'heure de Bullet, qui parle de bande dessinée toutes les semaines, qui est animée par Petrouchka.
Une bonne émission à réécouter sur notre site.
Qui parle de l'actualité de la BD en général.
Allez, on va partir cette fois-ci dans le jeu vidéo avec quelque chose qui pourrait être un peu dans l'agenda. C'est un remaster. Alors j'ai l'impression qu'on parle de ça chaque jour.
Ouais.
De, attention, de Quake. Alors, pas de Quake 2, pas de Quake 3, pas de Quake 6. Hein. Non, ici, le premier Quake.
Ça annonce éventuellement un remaster des autres plus tard.
Je pense. Qui sera disponible cette fois-ci en 4K.
Il est déjà disponible.
Voilà, déjà disponible en 4K sur PC et même sur console, telle que la Switch.
J'imagine, mais ça Quake en 4K, quand tu penses que Quake, c'est un des jeux, dans ce genre de jeu de FPS, de pseudo-3D, c'était l'un des premiers. On peut même, l'image est tellement petite, la résolution est tellement petite, on peut jouer donc, même pas sur téléphone. Donc, je crois qu'il y a des gens qui jouaient sur calculatrice, voire sur, même sur une imprimante. Je crois qu'il y a quelqu'un à faire tourner Quake sur un petit écran d'imprimante. Alors, en 4K, mais c'est fou, quoi.
ça rappelle de gros souvenirs. Alors, c'est vrai que 4K, même s'ils améliorent un peu... alors, est-ce qu'on peut prendre les graphismes ? Ça reste quand même du Quake. Hein,
il y a quatre couleurs qui se battent en duel.
C'était pas pour les couleurs.
Un peu carré.
Pas du tout pour les couleurs.
Enfin, je sais pas. C'est-à-dire, ils vont passer plus de temps et dépenser plus d'argent pour refaire des textures en 4K que pour refaire un nouveau jeu, en fait. C'est ridicule.
Bah, le tout, c'est de faire... cracher un peu l'utilisateur. Hein.
Ouais.
Alors ici...
C'est pour faire parler de soi. Preuve, on en parle.
Alors ID Software, du coup, va lancer une petite promo qui est actuellement disponible sur Steam. Alors vous pouvez avoir la majorité de leurs jeux avec une superbe réduction. Hein. Mmh. J'ai même vu qu'on pouvait avoir Quake 3 Arena. Alors qu'ils ont sorti Quake Champion, alors qu'ils ont sorti d'autres reformulations de Quake 3. Et Quake Official, lui, n'aura pas de promo, est à 9,99€. À savoir que si vous avez déjà acheté le jeu, vous pouvez gratuitement...
Je dois en avoir 5-6 versions chez moi gratuites.
Et ben, enfin, je sais pas, mais... Tu peux gratuitement passer en version 4K.
Qui va encore acheter Quake dès nos jours le 1 ?
Alors, l'acheter, il y aura peut-être des gens. Y jouer, il y en aura peut-être encore moins.
Si, tu vas avoir tous ceux qui achètent des vieilleries sur Steam parce qu'ils ont entendu parler, parce que là, ils vont le voir à 2-3€ et ils vont dire, allez, on va charger 15-20€ de vieilleries sur Steam et les
je
prendre en package.
Je vais même pas dire les YouTubers, les Twitchers, parce qu'ils vont peut-être le recevoir gratuit ou
Ouais, ils vont recevoir des clés.
Si, ça peut être amusant. Par exemple, tu viens de te faire un tout nouveau PC avec la toute dernière carte et 25 milliards de RAM et ce que tu veux, etc. Pour le tester, tu le testes avec Quake en 4K pour voir combien tu arrives à afficher d'images par seconde.
Alors attention, à ça s'ajoutent des modèles retravaillés, des lumières dynamiques colorées, un anti-crénelage, une profondeur de champ, la bande originale de Trent Reznor.
Ah oui.
Mais... Un support multijoueur. Ah bon. Attention, là, on rajoute un multijoueur en ligne avec du matchmaking et des serveurs dédiés. Bon, on sort le grand jeu ici pour ce Quake.
Il me semblait qu'il y en avait déjà, non ?
Bah ouais.
De mémoire, j'ai joué.
On peut y jouer en
premier, ça me dit quelque chose. Hein. Moi, j'y jouais déjà.
Attention,
mais c'était un réseau boulot, donc.
Oui, c'était peut-être typiquement le genre de jeu où tu avais les utilisateurs, les petits programmeurs se sont amusés à faire des mods, à faire leurs propres cartes parce qu'on pouvait, et c'est ça. Mais par exemple, des packs d'extensions 4K, etc., je suis sûr qu'il y en a qui l'avaient fait, quoi, des fans qui l'avaient fait déjà, comme pour plein de jeux. Quoi.
Bah, tout ça, c'est un peu été initié également sur Doom, puisque sur Doom, beaucoup de gens avaient commencé à faire leurs propres levels.
Voilà, ils faisaient des scénarios, ils refaisaient les monstres, les armes, etc., des mods complets, et c'est...
Jusqu'au point où John Romero, alors on peut parler un peu de John Romero qui voilà, a travaillé chez ID Software et qui était un peu chargé à l'époque de l'ambiance des jeux de Doom, de Quake, de Wolfenstein 3D. Alors on peut dire que c'est un vétéran.
C'est une légende ce type-là.
C'est ça. Alors est-ce qu'il n'a pas un peu abusé de son statut de légende ?
Peut-être tu peux dire que il a la tête un peu gonflée par moment.
C'est ça. Il a peut-être fait aussi des mauvais choix de carrière.
On va pas dire la drogue, les femmes, etc. Parce qu'il a toujours travaillé avec sa femme, Brenda, si je n'ai pas bêtise, qui était écrivain, enfin qui bossait aussi sur les scénarios, qui travaille toujours avec lui au niveau d'un jeu. Ils ont un site officiel à romero.com où on peut voir leur création et acheter leur jeu. Donc je pense qu'il était surveillé de ce côté-là.
Mais, en ce moment, son actualité, c'est qu'il travaillerait notamment sur quelque chose sur Quake, mais également sur Sigil 2.
Ouais.
Alors,
on ne savait même pas que le 1 existait, au moins on l'a découvert.
Bah, on l'a appris. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Sigil ? Eh bien, en fait, ça se base sur le Megawad, et c'est ce qu'on vient d'annoncer. C'est un peu ses créations de niveaux supplémentaires. Et lui avait créé ses propres niveaux sur Doom, et avait proposé d'en faire une version à lui.
Ouais. Megawad, on va expliquer, parce que WAD, les fichiers .WAD, c'était les fichiers de cartes qui contenaient dans le jeu. Si vous ouvriez sur PC votre répertoire Doom, Quake, c'était peut-être un autre type de fichier, je ne me souviens plus, mais tu avais des fichiers, tous les fichiers classiques d'IMA, et tu avais les fichiers .WAD qui contenaient les cartes, mais aussi les musiques, les textures, toutes les informations du jeu, et tu pouvais créer tes propres fichiers WAD, etc. Et donc voilà, tu pouvais télécharger, ou t'avais dans les, quand t'achetais un magazine de jeux, t'avais des CD remplis avec des milliers de fichiers WAD créés par des utilisateurs qui s'étaient amusés à refaire leur école, etc., ou leur maison, ou leur ville, ou n'importe quoi. Tu le mettais dans ton répertoire Doom, tu lançais le jeu, tu choisissais le fichier WAD, hop, tu jouais au niveau du jeu. Et t'avais des packs entiers, voilà.
Donc lui avait créé donc son sigil.wad avec une dizaine de nouvelles maps. Et si par contre vous étiez sur Mac, il fallait dépenser 6,66€.
Normal. De toute façon, t'avais un Mac, t'avais les moyens.
Oui, puis t'as l'habitude de te faire arnaque, c'est ça.
Donc, et donc pour l'occasion, le premier sigil, est, on peut le télécharger gratuitement. On peut aller sur son site romero.com, etc. On peut même y jouer sur téléphone.
Et... Donc il travaille sur le 2, et le 2 sera pour Doom 2. Peut-être plus intéressant pour certains qui préféraient peut-être le...
Moi, je préférais Doom 2, mais bon.
Les deux sont acceptés.
Ouais. Alors, il y a d'autres jeux... Qui ont un peu terni, comment dire, la carrière de John Romero. Alors, le premier, c'est dans les années 2000, c'est Daikatana, qui avait été annoncé pour 97, qui est un peu resté dans l'histoire comme l'un des plus mauvais jeux, ou en tout cas l'un des plus mal développés, et qui est sorti donc dans les années 2000.
C'était son petit bébé, quoi. Mais parce qu'il disait, bah, ça va être le meilleur jeu de la Terre. C'était
la folie. Surtout qu'à l'époque, il quitte ID Software et demande un peu à d'autres personnes de l'aider financièrement, qui ont dû le regretter d'ailleurs.
Bon.
Alors, ici, dans ces années-là, on parle de jeux tels que Deus Ex ou Half-Life, hein, qui sortent à côté. Wow. Donc, quand vous entendez ces grandes pointures et que je vous dis Daikatana, vous me dites, il y a un problème. Il y en a un qui n'a rien à faire là dans l'histoire.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un vaporware. C'est typiquement le truc qui est annoncé et puis qui sort, je ne sais pas, comme les films Dune au hasard, par exemple, qui sont annoncés 20 ans en avant puis qui finissent... éventuellement par sortir, mais des années avec du retard, quoi. Les trucs qui sont annoncés avec des, ouais, ça sera le plus grand spectacle, le jeu, l'intelligence artificielle, les monstres les plus forts, les plus beaux, les décors les plus magnifiques et tout. Puis pff, à la sortie, t'as rien, quoi.
Alors apparemment, il a changé multiples fois de chef de projet, développeur. Apparemment, à cette époque, il aurait pris la grosse tête et changé de décision un peu de façon...
Si vous voulez plein d'exemples de projets comme ça, vous allez faire un tour sur Kickstarter et vous en avez des tonnes par jour. Des projets qui... Ouais, on va faire le plus grand jeu du monde. Ou si c'est une musique, l'album qui va révolutionner la musique. Ou donner votre argent et puis des projets comme ça sur Kickstarter, c'est quotidien, quoi.
Et moi, j'avais...
Heureusement que ça n'existait pas à l'époque.
J'avais croisé un deuxième jeu sur Steam qui s'appelait John Romero Aftermath.
Oula.
Qui était en fait une sorte de nouveau de DayZ qui avait... C'est ce genre de jeu de survie avec des zombies où vous pouvez construire votre propre forteresse.
Quand tu mets le nom du créateur dans le nom du jeu, ça craint. Enfin, je sais pas. Faut voir.
Alors maintenant, il est gratuit, le jeu. Hein. Donc,
c'est avec... peut-être parce que le nom existe déjà et qu'il faut le séparer. Voilà,
avec des achats in-game, vous pouvez acheter des armes plus puissantes que vos voisins. Hein, ce qu'on appelle un peu le pay to win. Un jeu qui a très bien commencé, qui était excellent, mais qui n'a jamais été suivi par ses développeurs. Voilà, ce qui l'a rendu maintenant très décevant. Intéressé par ce nouveau Quake ? Non ?
Comme d'hab, pour se rappeler les souvenirs d'il y a 20 ans. Mais à part ça...
Mais quel jeu d'ID Software, vous, limite, vous direz « Ah, ça serait une bonne idée d'en refaire un remake ».
Aucun, non. Ça, si tu commences la question comme ça, l'idée d'en refaire, non, ben non. Une suite, même pas, enfin, c'est difficile.
Moi, je vous le dis, hein, moi, j'attends mon Quake 3. J'ai pas été satisfait par Quake Champion. Donc, une version 4K de Quake 3 avec...
J'ai entendu dire du bien du Doom 4, peut-être, parce que le 3 était bof.
Le 3 avait un peu changé de direction pour prendre un peu une vision horreur.
Oui, c'est ça.
Et je pense qu'il y a un mode VR sur Doom 3 pour...
Et apparemment, le 4, vous aurez peut-être le coup d'essayer, on verra bien.
Alors, on va continuer avec un peu
Sinon,
de...
il y a le film Doom hein, avec Dwayne Johnson. Je conseille. Pas le 2, mais le 1, il est bien.
On va s'enchaîner avec un peu de musique. Je vous avais annoncé une découverte sur YouTube. Alors, Raoul Covin nous a fait plusieurs BD, et notamment une qui est extrêmement connue, c'est Cédric. Une BD un peu humoristique pour les enfants, voire ados.
Tout à fait.
Alors, du coup, en cherchant, en préparant cette émission, nous avons cherché des chansons sur Cédric. Et malheureusement, nous sommes tombés sur, alors je vous le dis en anglais, « The guy who sings your name over and over ». Donc le mec qui chante ton nom encore et encore.
À noter, très mauvaise idée, chercher ton nom, ton prénom sur YouTube.
Mais généralement, je m'attendais à une chanson du type « Joyeux anniversaire » et puis on remplace ton nom. Non, c'est un homme qui va refaire une chanson entière avec ton nom.
Une chanson.
Un morceau de musique.
Cédric, Cédric, Cédric.
On va s'écouter du coup Cédric.
Cédric, Cédric,
c'est pas une intelligence artificielle
Cédric,
qui chante
Cédric.
Là, t'es sûr?
Ah, je pense, ouais.
C-E-D-R-I-C, C-E-D-R-I-C. Cédric, 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 Cédric.
Tu le passes à ton enfant, tu sais, pendant qu'il dort la nuit, tu m'incasses pour qu'il apprenne bien son prénom.
Cédric, Cédric, Cédric.
Ou ton
c'est
chien. Tu viens d'avoir un chien, puis tu veux. T'as adopté un chien, ou il y a quelqu'un qui t'a donné un chien qui avait déjà un nom, puis le nom ne te plaît pas. Et donc, quand t'appelles le chien, il vient pas. Et mettons que tu vas appeler ton chien Cédric, ben voilà, tu mets dans sa niche, tu mets des haut-parleurs, et toute la nuit, toute la journée, tu le. Pour comme ça, le chien, il va bien retenir ton nom.
Mais surtout faire une dépression parce qu'il n'arrive pas à dormir.
Je crois. T'as pas intérêt de te tromper de vidéo YouTube, hein, parce que là, t'es mal. Si tu veux que ton fils apprenne son prénom en anglais, c'est très bien.
Faut pas dire que c'est le type de personne qui va gagner The Voice non plus. Hein.
Je le verrais bien, comment s'appelle l'émission sur la 6, là, Incroyable Talent, où les gens ils vont juste, ils savent pas chanter, mais ils vont juste pour passer à la télé pour s'amuser, quoi. Ils passent dans les worst, dans les ratages. Ce type-là, il aurait tout à fait sa place.
Alors c'était Cédric. Alors peut-être qu'on peut s'en écouter une autre. J'ai Randall.
Randall.
Nos auditeurs ont tout de suite remarqué qu'il y a une profusion de thèmes musicaux.
Alors, il y a des playlists, il y a au moins 16-17 playlists de 100 chansons chacune.
Ah oui, il en a fait des centaines et des milliers, quoi.
Je vois que Randall vous plaît pas, on va prendre Russell.
Mon Dieu.
C'est une bonne découverte. On en a vu des choses sur YouTube. Et celle-là, elle va peut-être rester dans les mémoires.
Encore,
tout
va.
Comme l'homme qui mange des sandwichs.
Il chante bien. Enfin, pour ce qui... ça va, ça pourrait être pire.
Il épelle bien aussi, c'est ça.
T'imagines, il fait un concert live. Je le verrais bien, tu organises ça, tu loues une salle, tu l'invites sur scène avec un orchestre derrière qui fait la musique en boucle. Et puis il demande à chacun des spectateurs de donner ses prénoms, puis à chaque fois il chante pendant 2-3 heures. Combien tu paierais pour avoir ça? Surtout pour rester 3 heures dans la salle à écouter.
Je sais même pas si tu me l'offres.
Le pire, c'est que tu rentres dans la salle et lui, il a le listing de toutes les personnes qui ont pris leur place. Et il chante leur prénom pendant 3 minutes, chaque prénom de chaque invité dans la salle. Chaque personne qui a payé.
Ou alors, ton mariage, tu fais ça, tu vois, à ton mariage. Chaque fois qu'il y a des invités qui rentrent, tu peux avoir quelqu'un qui les présente, etc. Chaque fois que quelqu'un arrive, il demande le prénom et il chante ça.
Les derniers, t'as 3 heures d'attente pour rentrer dans la salle.
Pour manger ton bout de gâteau.
Tu penses bien que ses amis lui ont forcément demandé.
Non, tu t'amuses, mais t'arrives, t'es dans la file. Est-ce que tu donnes ton vrai prénom? Non, moi je sais pas, je donne un nom super long, quoi. Nabucodonosor, même Archibald.
En plus, je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire des demandes, puisqu'on n'a pas forcément que des noms, on a aussi des mots.
Ah oui, je pense qu'on peut demander, oui.
P-O-O-P.
On va le contacter, on va lui demander de faire Radio Campus.
Oui, 106,6. On verra, écoute, c'est toujours demandé. Alors du coup, est-ce qu'on peut compter ça comme une musique? Est-ce qu'on s'écouterait pas quelque chose du tout? J'ai du Georges Brassens.
Absolument. Une autre série connue, très très connue, de Raoul Covin, Pierre Tombal, les aventures d'un fossoyeur, d'un croque-mort, comme on disait à l'époque.
Et Georges Brassens nous a fait une chanson qui s'appelle Le fossoyeur.
Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Les vivants croient que je n'ai pas de remords à gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracasse et d'ailleurs, je les enterre à contre-cœur. Je suis un pauvre fossoyeur. Et plus je lâche la bride à mon émoi, et plus les copains s'amusent de moi. Ils me disent mon vieux par moment, t'as une figure d'enterrement, je suis un pauvre fossoyeur. J'ai beau me dire que rien n'est éternel, je peux pas trouver ça tout naturel. Et jamais je ne parviens à prendre la mort comme elle vient. Je suis un pauvre fossoyeur, ni vu ni connu. Brave mort, adieu, si du fond de la terre on voit le bon Dieu. Dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur. Je suis un pauvre fossoyeur.
C'était Georges Brassens avec le fossoyeur.
À noter que les BD Pierre Tombal sont quand même beaucoup plus rigolotes et hilarantes que le ton un peu suicidaire de Georges Brassens sur cette chanson.
C'est juste que je l'avais passé en 45 tours. C'est ça. Alors, je vous ai promis de parler forcément de Elon Musk, puisque récemment, il y a eu l'AI Day de Tesla. Alors forcément, ce qui a permis à Elon Musk de faire un peu de jeu de scène et d'annoncer quelque chose qui a un peu, une fois de plus, secoué la toile, puisqu'il présente son propre Tesla Bot. Alors c'est quand même un événement qui a duré 3 heures, je pense. Ils ont parlé du Tesla Bot pendant 10 minutes. Et tout le reste de la conférence est un peu passé à la trappe.
Un petit peu comme à l'époque, quand pour les conférences Apple, tu présentais le nouveau téléphone, qui ça prenait 10 minutes. Et puis
les nouveaux OS, enfin, les nouvelles mises à jour.
Il y avait peut-être un peu plus. Ouais.
Alors, pour le gros de la convention, tout s'est basé, bien sûr, sur Tesla et son autopilote, qui est vraiment la direction que choisit de prendre Tesla, malgré, et on va en parler tout à l'heure.
Le Tesla Bot, c'est un robot, enfin humanoïde, je crois, mais c'est pas il fait pas de chien, lui ?
Non.
Ah, ok, pas encore.
Il a choisi justement la version humanoïde. Et pourquoi est-ce que c'est Tesla ? Parce qu'il utilise tout simplement la technologie de Tesla à l'intérieur d'un humanoïde. Donc c'est un peu comme s'il transvasait la voiture dans une sorte de.
C'est l'inverse de K2000.
C'est ça, peut-être. Et du coup, alors, le gros de la conférence, c'est bien sûr sur l'autopilote, avec des explications sur le fonctionnement qui deviennent extrêmement techniques lorsqu'on voit les personnes qui travaillent à la tête de l'entreprise. Ils expliquent un peu comment, depuis la prise des caméras, et ensuite, comment est-ce qu'on fait un autopilote. Alors, premièrement, bien sûr, c'est d'identifier ce qu'on reçoit sur la caméra, mais il y a aussi à savoir de mettre ça par rapport à la réflexion d'un humain. Donc, ils font vraiment une sorte de parallèle entre le fonctionnement de leur puce avec celle d'un cerveau.
Le comportement humain à la base. Hein.
Effectivement. Parce que lorsque vous conduisez une voiture, vous ne réagissez pas sur l'instant présent. Vous imaginez aussi ce qui va se passer. Vous êtes capable, sur 15 ou plus secondes, lorsque vous conduisez, savoir quel danger vous allez devoir éviter, où est-ce que vous allez tourner.
Le cerveau humain peut imaginer plein de scénarios possibles et se baser en plus sur son expérience ou des choses qu'il a vues même dans des films ou à la télé, dans les informations.
Il peut prévoir et anticiper des futures actions.
Et du coup, c'est ce qu'ils essaient de reproduire. Et c'est vrai que ça a l'air d'un travail titanesque de réaliser tout ça. Et ça a l'air plus ou moins de bien fonctionner. C'est un peu flippant parce qu'on se dit, mais une fois que tout ça fonctionne parfaitement, jusqu'où est-ce qu'on va aller ?
Oui, mais le problème, c'est qu'il faut faire des... Enfin, pour être sûr que ça fonctionne parfaitement sur le papier ou même dans les simulations, mais après, il faut le tester en vrai. Et c'est difficile, effectivement, de tester ce genre de choses, surtout avec des voitures. Mettre des voitures en déplacement libre, en test, dans les rues occupées, enfin, c'est pas évident. Dans la vraie vie, c'est pas évident, quoi. Il y a eu quelques petits accidents, d'ailleurs.
Donc, ils vont ensuite créer des puces semi-conducteurs. Et apparemment, pour un peu réduire les coûts de production, ils vont proposer donc les brevets à 3 autres sociétés.
Ils vont sous-traiter.
Voilà, on peut appeler ça un peu de la sous-traitance. Il y aura également donc le super ordinateur Dojo, une puce électronique qui... Apparemment, sera un peu révolutionnaire. Alors, faut vraiment voir la. C'est tellement technique, à un moment, on s'en perd. Et je pense que c'est pour ça que les gens se sont tous focalisés sur le robot, puisque tu le vois arriver. Alors, c'est marrant, parce que il joue un peu de ça, parce que c'est vrai que lors de ses dernières interviews, Elon Musk avait quand même souligné que le plus gros danger de l'humanité, ça resterait l'évolution de l'intelligence artificielle.
Dans 5 ans, la conférence, ça sera les types qui vont présenter leur travail, les hommes d'humains, ce sera des robots en fait.
Donc, lorsque le robot arrive, en fait, c'est un humain déguisé dans le robot et qui commence à se mettre à danser. Donc, on voit très bien qu'il joue de la sorte. Et il commence un peu son speech en disant « Bon, voici un peu les caractéristiques du robot. Et il aura, en niveau mécanique, il pourra se déplacer à environ 5 km/h pour que vous puissiez... vous ayez le temps de vous échapper. Bien. Et là, tu fais d'accord. Ok, je vois que...
Il y a des gens qui vont moins vite que 5 km/h. Hein.
C'est ça. Mais...
Surtout après manger.
Surtout après manger.
Mais il efface un peu du revers de la main en disant, bon, on espère qu'on arrivera à contrôler la chose. Et puis, vu que tout le monde le...
J'ai vraiment des extraits de Terminator et compagnie qui me viennent à l'esprit, c'est fou.
Bah, surtout que là, tu te dis, c'est bien beau tout ça, mais... À quoi cela va servir, dans le sens où tu as déjà des robots, même si c'est par exemple pour remplacer des ports de charge lourde ou autre, dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de mettre d'IA, tu as déjà des robots qui sont des automates, ouais. Tout simplement, qui sont par exemple pour les travaux à la chaîne ou mm-hmm. en entreprise ou autre, des simples matériels
c'est
automates.
Des automates qui, plus voilà, des robots, ouais.
Tu vois, et ça suffit amplement parce que ça soulage une partie du travail de l'être humain, mais... Jusqu'où ça va aller, dans le sens, qu'est-ce que ça va remplacer exactement?
Le but, c'est de remplacer tout, pour que les gens n'aient plus besoin de travailler, en fait.
Voilà. Mais la société n'est pas encore prête, parce que si tu te remplaces, la NPE, elle va fermer ses portes en disant, on ne peut plus vous accueillir, vous êtes déjà trop nombreux.
Il n'y aura plus besoin de... Voilà, on va on n'aura plus besoin de gagner d'argent non plus, forcément. Enfin,
Là, on vous parle d'un robot domestique, donc qui vous soulage de vos tâches au quotidien.
Ah, y a des applications concrètes, effectivement, pour les handicapés, on a des chiens pour les aveugles ou ce genre de choses, ou même pour les gens en fauteuil roulant. Je me rappelle qu'il y avait on dressait des petits singes pour qu'ils décrochent le téléphone ou qu'ils fassent des actions, qu'ils allument le four ou même allument la télé, ce genre de choses, quoi. Oui, ça peut être remplacé par des robots. Ou dans les maisons de retraite, ça se fait aussi. De temps en temps, on voit des robots qui assistent et puis ça fait une présence. Même si c'est pas une présence humaine, ça fait une distraction, ça fait quelque chose qui bouge au moins ou qui interagit avec toi, quoi.
Pour les gens.
C'est mieux que d'avoir une personne qui reste dans son lit ou dans son fauteuil toute la journée sans avoir de visite ni rien, quoi. À part une infirmière qui passe, ça va madame Michu, vous allez bien, puis c'est tout qui repart, quoi, parce qu'elle n'a pas le temps.
Dans ces cas-là, tu as aussi les maisons pour seniors où en fait ce sont des immeubles entiers qui sont, où ce sont des personnes âgées qui achètent un appartement. Et après, à l'intérieur, tu as tout ce qu'il faut. Tu payes très cher le mois après niveau charge. Mais derrière, tu as des animations, tu as plein de choses derrière. Ce ne sont pas des maisons de retraite.
Ça permet de faire des économies sur le personnel parce que c'est peut-être ce qui coûte le plus cher.
Mais dans ces cas-là, ou même pour les hôpitaux, ou par exemple pour tous les services où il y a des pandémies ou autres maladies très infectieuses, où s'il se passe quelque chose, tu peux employer un robot qui lui aura l'intelligence artificielle de détecter des choses et de remonter quelque chose, ou un automate ne pourra pas le faire.
Ça marcherait bien en ce moment.
Ouais, t'as pas besoin d'un automate pour piquer quelqu'un.
On a vu le cas aussi avec des serveurs dans les restaurants ou les cafés au Japon. Enfin, c'était un peu de la science-fiction. Ouais. Mais oui, t'avais des robots, tu pouvais commander directement. On est à la limite de ça, parce que c'est vrai que tu vas au restaurant maintenant, on ne te donne pas le menu, quoi. T'as un code barre sur la table, tu dois le scanner toi-même avec ton téléphone. C'est toi qui passes la commande. C'est limite si c'est pas toi qui dois aller faire la cuisine bientôt, quoi.
J'ai l'impression que tous les restaurants qui font ça n'ont pas le 4G à l'intérieur. Alors tu vas me dire, heureusement qu'on est tous vaccinés, donc on va tous avoir 5G. Je vois très bien de quoi.
Moi, c'est bizarre, j'ai toujours la même réception avec mon téléphone, donc je comprends pas.
Ah, du coup, je me suis perdu là dans les complots. Je suis navré.
J'avais recherché, j'avais des petits exemples. On parlait de l'intelligence artificielle, de l'autopilote de Tesla qui n'était pas encore super au point. J'avais vu des vidéos assez amusantes où tu avais une voiture, enfin, c'est un utilisateur, un conducteur d'une Tesla qui s'était filmé parce que, comme il a une Tesla, il peut jouer sur son téléphone, pas de problème. Il avait filmé sa voiture de l'intérieur et sa voiture suivait un camion. Et sa voiture, c'est bizarre, elle ralentissait par moments, limite à s'arrêter, alors qu'il était presque sur une autoroute, quoi. C'est simplement que le camion qui était devant lui, c'est un camion qui allait sur un chantier pour y déposer des feux de circulation, temporaires pour les chantiers. Donc la voiture avait détecté sur le camion, elle avait reconnu la forme des feux de circulation, même s'ils n'étaient pas branchés. Donc dès qu'elle approchait trop près, elle ralentissait, elle s'arrêtait, et puis elle réaccélérait quand le camion avançait, etc. Donc c'était pas encore au point. Et on a vu un autre exemple récemment où elle a eu l'intelligence avait confondu la pleine lune qu'on voyait au loin avec la lumière orange d'un feu rouge. Donc elle s'arrêtait.
Il fallait pas être pressé ce jour-là pour rentrer chez soi.
T'imagines, t'es sur l'autoroute et boum, il y a un nuage qui se cache et t'as la lune blanche qui apparaît. Ta voiture pile net en plein milieu de l'autoroute. Wow. Bon.
Le pire, c'est que quelquefois la lune est un peu rouge, donc ça peut être un problème.
Absolument. Bah, aux États-Unis, oui, parce qu'il y a ils enquêtent. Enfin, ils ont lancé une enquête sur Tesla justement, parce que apparemment il y aurait 11 Tesla dans tous les États les États-Unis qui se seraient écrasés contre des véhicules d'urgence. J'imagine aussi en confondant une lumière clignotante peut-être avec un feu ou un signal pour s'arrêter, ou peut-être que ça a marché ou pas justement et la voiture ne s'est pas arrêtée.
Il y a surtout ça lorsque lorsque vous conduisez, vous arrivez à une intersection, même si elle est verte pour vous, si vous entendez le signal de la police ou des pompiers, vous allez vous méfier au carrefour parce qu'ils peuvent débarquer à tout moment à une vitesse.
Un être humain va être sur ses gardes, quoi.
Alors, est-ce que la Tesla a à l'intérieur un système de détection audio? Je n'en suis pas sûr.
Donc
ça pourrait expliquer notamment une de ces failles. Mais le gros problème...
J'espère que oui.
Normalement, dans ces cas-là, quand tu as ce genre de bruit sonore autour de toi, tu reprends la main sur la Tesla, tu ne la laisses pas conduire...
Alors justement, normalement, on parle d'une assistance, c'est pas encore d'un autopilote, donc une assistance
autonome,
au pilotage. Hein. Ce qui fait que les gens, une fois que l'autopilote fonctionne plus ou moins bien, commencent à lâcher la tension. Hein, et peut-être commencer à jouer sur leur portable ou autre.
Si tu es sur l'autoroute, effectivement, c'est long, il n'y a pas trop de voitures et que tu sais que sur des centaines de mètres devant et derrière, il n'y a rien qui devrait se passer normalement, oui, tu peux te permettre de relâcher vraiment la pression. Peut-être pas dormir, mais bon... Tandis que quand t'es en ville, il faut toujours avoir... Même quand t'es pas conducteur, je veux dire que voilà, quand je suis assis à côté dans une voiture assis à côté de quelqu'un, j'ai les yeux, enfin je regarde partout quoi, pour prévenir au même moment, parce que surtout en ville, tu sais pas, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir un gamin, tu vois courir sur le trottoir et si le chauffeur, le pilote le voit pas, tu peux lui dire fais gaffe, il y a un gamin, etc. Enfin c'est des détails. On peut espérer que les voitures Tesla et autres, tous les autres qui travaillent, seront bourrés de capteurs dans tous les sens pour anticiper ce genre de choses. Pour l'instant, elles font qu'apprendre.
Alors justement, Tesla a essayé de premièrement sensibiliser les conducteurs en leur indiquant comment fonctionnait la technologie, qu'il fallait qu'ils restent attentifs, et en essayant de mettre un peu des vérifications à l'intérieur du véhicule pour voir si la personne au moins est assise sur le siège. Sauf qu'on s'est aperçu que certains avaient réussi un peu à gruger la voiture.
Tu mets un sac à dos ou un truc comme ça, non ?
Voilà, déjà, tu mets la ceinture, tu t'assieds à côté et c'est parti.
Super.
En avant. Et ils ont réussi à conduire. Alors là, ils avaient pris un circuit automobile pour être sûr de ne pas avoir, de pas mettre d'autres personnes en danger, bien sûr. Mais bon, ils ont déclaré que ça avait été facile de tromper l'autopilote.
Là où on fera au point aussi, c'est que de plus en plus, toutes les voitures seront connectées d'une certaine façon. Ça existe avec certains modèles de GPS, etc. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais d'un signal d'écouter pour entendre si tu entendais une ambulance, un son d'ambulance, etc. Mais peut-être qu'un jour, tous les véhicules, y compris les véhicules professionnels, seront... Donc, elle n'aura pas besoin de l'entendre, elle le saura, grâce au réseau, que la position de tous les véhicules de sécurité seront connues. Donc, peut-être même que la voiture de pompier, par exemple, émettra sur un rayon de 100 ou 200 mettre un signal Bluetooth ou peu importe à tous les véhicules connectés soi-disant intelligents autour d'elle en disant voilà j'arrive à libérer, et la voiture saura même avant même d'entendre ou de voir le véhicule qu'il faudra qu'elle fasse de la place. Elle connaîtra même le trajet, peut-être qu'elle recalculera son trajet en temps réel pour se placer de façon à pas gêner le véhicule quoi. Donc
en tout cas, si vous avez quelques minutes à perdre, allez voir cette conférence de la Tesla AI. Alors même si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas grave, regardez les images où on les voit analyser et créer un peu cette...
ce réseau neuronal.
C'est assez bluffant. Et bon, c'est toujours intéressant de voir Tesla, comment ça évolue. Alors, savoir que Tesla, ce n'est pas une société qui est créée par Elon Musk. C'est une société qu'il a rachetée et qu'il a un peu développée avec ses idées. Donc, bon, c'est toujours bien de voir l'évolution. Et encore une fois, avec un Tesla bot, ça fait parler d'Elon Musk. Donc, toutes ces sociétés en gagnent, en bénéficient du coup. Alors, un peu de musique. Une autre BD de Raoul Covin, c'est L'Agent 212.
Très grand agent. faut pas dire Benet.
Un petit peu. Oui, c'était, oui, c'était un policier municipal ou policier, oh, je sais plus. Enfin, c'était vraiment le flic de base, style Cruchot. Enfin, c'était. Voilà,
pour l'époque, c'était un uniforme noir bouton blanc ou un truc comme ça.
Avec le képi.
Avec le képi, exact. Les vieux uniformes de police.
Déjà, bon, oui, il y avait un numéro, l'insigne 212, etc. C'est vraiment à l'ancienne.
Qui du genre a bien aimé les donuts.
Genre, ouais. Il avait plus le profil Achille Talon qu'autre chose.
Voilà, encore une BD qui a bien fonctionné. Et même si on se souvient pas du nom, l'agent 212, dès qu'on
je
le voit...
Je sais pas s'il avait pas de nom, enfin, je sais pas. Je suis pas sûr.
Il a peut-être été notifié quelque part des fois, quand t'avais des planches sur sa vie privée, mais généralement, ça restait dans le domaine de ses fonctions ou de ses supérieurs, donc c'était toujours agent 212. Après, je ne sais plus.
Donc, ça c'était aux éditions, quand même, hein. Aux éditions ouais. Dupuis et les dessins de Daniel Cox. Alors, du coup, on a trouvé une chanson.
S'il avait eu du succès, il aurait été adapté en dessin animé, etc. Ou peut-être qu'à l'époque, ça se faisait déjà pas. Parce que Cédric a été adapté.
Il me semble qu'il était adapté. Enfin, je dis ça de mémoire, mais j'ai peut-être un doute. Je confonds peut-être avec autre chose.
Non, c'est trop ancien.
Alors, on a eu plusieurs styles de musique et on va en rajouter un nouveau avec Azealia Banks,
oh mon Dieu.
Avec un feat de Lazy J, parce qu'il avait été trop fainéant pour faire la chanson tout seul, donc il avait juste rejoint pour un feat. Et la chanson s'appelle forcément 212. Sur les ondes de Radio Campus C'était Azealia Banks avec 212, un feat avec... Oui, non, je sais très bien que tu voulais en réécouter une, mais non.
J'ai trouvé le nom de l'agent 212, c'était l'agent Arthur Delfouille.
Ça change du ska reggae. Hein,
un petit peu.
Alors, on parlait d'intelligence artificielle, on a encore quelques petites actualités.
On sera jamais à court d'actualité sur l'intelligence artificielle.
Je pense que c'est des métiers d'avenir, hein, réparateur de robots ou développeur d'intelligence artificielle, ça promet. Bah, quoique, l'intelligence artificielle va se développer par elle-même, puisqu'on a pu voir...
C'est ça qui fait peur. Ça qui fait vraiment peur.
On a pu voir récemment qu'elle crée même des brevets maintenant.
Oui, absolument. Jusqu'ici, c'est interdit et il y a des pays qui commencent, l'Afrique du Sud le plus récemment, je crois. Une intelligence artificielle a inventé quelque chose et le bureau des brevets du pays a accepté de le valider avec comme auteur une intelligence artificielle. Jusqu'ici, on mettait le nom des créateurs de l'intelligence artificielle indirectement. Mais là, donc ça y est, on est parti pour Skynet. Pour de bon.
Alors, des projets d'autonomie, notamment ferroviaire, ici.
Dans la région, en plus.
Voilà, c'est la SNCF qui se lance vers des prototypes de trains autonomes. Alors, c'est pas pour tout de suite, pour dans 2 ans, je pense.
Ça va venir très vite, en fait. Hein, c'est ça, ça fait bizarre. Moi, je sais, ça fait quelques mois qu'ils en parlaient, dans la presse régionale, entre autres. Et effectivement, ça va venir assez vite. Alors, c'est un petit peu, on dirait un rail. C'est pas comme une route, c'est fermé. Donc, un train ne risque pas de sortir de la route. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a encore tous les trains sont équipés. Il y a de moins en moins de monde dans le train. Souvent, dans certains trains, tu as juste un chauffeur et un contrôleur, c'est tout. Mais ils sont
persuadés qu'il y a des fois, il y a plus de gens qui travaillent dans le train que de passagers.
Ça peut arriver sur certaines lignes, dans certaines petites gares, oui. Ben c'est pour ça qu'effectivement, si on veut avoir plus de trains, il faut aussi plus de personnel. On est capable de mettre plus de trains, mais il faut. C'est une des fonctionnalités justement d'avoir des trains autonomes, c'est de pouvoir avoir plus de trains, mieux coordonnés entre eux, pour pouvoir accueillir plus de passagers, avoir plus d'horaires et desservir peut-être plus de gares, de petites gares, quoi.
Alors attention, puisque comme ils sentent que ça va peut-être lever une certaine rébellion contre ce projet.
Chez les syndicats, tu veux dire ?
Mais d'ailleurs, ce que j'allais dire, ce qui m'étonnait, c'est que nous n'avons pas encore une seule grève là-dessus, alors que c'est annoncé.
Ça dépend, si derrière, tu vas peut-être embaucher plus de personnes, parce que ça va aussi permettre de rediriger certaines personnes vers d'autres fonctions. L'entretien des trains, par exemple, c'est un des gros problèmes, parce qu'il y a beaucoup de trains qui sont sans arrêt, qui tombent en panne, ou je ne sais quoi, parce qu'il n'y a plus de budget ou plus de temps pour l'entretien. Ça peut être...
Je pense que c'est arrivé dans tellement de secteurs que voilà, il suffit de proposer une sorte de reconversion.
Puis il va falloir apprendre à ces trains à se conduire eux-mêmes.
Alors,
les entraîner.
Ils sont pas bêtes puisqu'ils mettent tout de suite en avant pour le public, hein, pour l'opinion publique en tout cas, plus de trains et plus de ponctualité et d'économie d'énergie, bien sûr. Voilà, sur le papier, c'est assez vendeur. Donc, on débloque ici un budget de 57 millions d'euros pour développer donc la première phase.
Il y a déjà eu des essais qui ont eu lieu en mars 2021, entre Aulnoy et Budigny, donc dans le Nord.
Donc là,
et entre Budigny et Calais. Donc, peut-être que vous êtes monté sans le faire exprès. Non, je pense pas que c'était des trains fermés qui n'étaient pas ouverts au public, mais peut-être que... Un jour, on prendra des trains. Effectivement, il n'y a pas de pilote. Comme ici, à Lille, on prend le métro sans conducteur.
Donc, le but est de reconnaître, bien sûr, les signaux sur la voie et également travailler sur la géolocalisation.
Oui, puis adapter en temps réel avec la communication, puisque quand tu n'as que des trains intelligents qui communiquent entre eux, bah, tu sais en permanence où sont les autres trains, s'il y a des accidents, des ralentissements, etc. Après, il faut voir qu'est-ce qui se passe en tant que... Enfin, c'est vrai que même un conducteur de train, s'il y a quelque chose qui tombe ou une voiture coincée sur une voie qui le voit au dernier moment, ben, un train, tu freines pas comme une voiture, quoi. Ça va prendre un certain temps. Donc, réagir aux pannes, etc. Moi, j'imagine qu'après, même s'il n'y a pas de conducteur physique dans le train, ils peuvent intervenir à distance.
À voir, en tout cas, d'ici 2023, on aura, je pense.
Tant qu'on a plus de trains qui sont plus à l'heure, ça m'intéresse.
Alors, je voulais parler, puisqu'on arrive en fin d'émission, je voulais absolument parler d'une news qui est liée à l'intelligence artificielle. On parle souvent du deepfake qui vous permet de remplacer votre visage.
Ou la voix même, de plus en plus.
Voilà, sur la tête de quelqu'un d'autre, dans un film ou autre. Et je pense à l'avoir cité à une époque, je me suis dit, il y a certains acteurs qui sont tellement ravis d'aller sur le lieu de tournage qu'un jour, ils vont demander tout simplement si on peut pas leur lancer un deepfake. Et c'est ce qu'a réussi à faire Bruce Willis, l'un des acteurs les plus réputés pour détester justement tourner ces scènes. Et c'est en Russie qu'il a fait ses premiers pas.
Il n'était pas en Russie.
Et voilà, c'est en Russie qu'on a...
C'est la Russie qui lui a demandé, et lui, il a été tout à fait d'accord.
Ils ont dit, au fait, on t'a fait un deepfake sur une pub, est-ce que ça te dérange? Non, pas du tout, tant que je gagne un petit chèque derrière.
J'imagine qu'il a juste fait la voix, mais même la voix, ils auraient pu la faire eux-mêmes, avec un deepfake vocal.
Je pense même pas qu'il a fait la voix.
Et en plus, c'est vrai qu'avec le corona, les tournages, c'est pas forcément évident d'y aller, quoi.
En même temps, pour eux,
pas envie d'aller en Russie. Déjà, en temps normal, t'as pas envie d'y aller.
C'est gagnant-gagnant, parce que dans le sens, eux, ils payent beaucoup moins, ce qui l'acteur n'est pas du tout le même prix à payer. Ils payent qu'un droit à l'image, et de l'autre côté, tu ne fais rien, tu gagnes de l'argent. Et si t'as un droit de regard en plus, si ton avocat a réussi à voir ça,
j'imagine qu'ils te font visionner la séquence pour voir. Oui, ok, ça va, on croit que c'est moi. Enfin, ils font pas dire des trucs horribles ou quoi que ce soit, ça va quoi.
Pour Bruce Willis, c'est génial. De un, il touche de l'argent. De deux, il a l'air plus jeune.
Oh, c'est vrai.
C'est double jackpot. Et pour la Russie, t'as un produit, t'as Bruce Willis dedans, c'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va avoir des acteurs de ouf dans nos pubs. Hein,
je regarde plus les pubs.
C'est vrai, de toute façon, plus personne ne les regarde. Là, on les regarde parce que on l'a regardé parce que c'était Bruce Willis pour voir le truc, quoi. Effectivement, c'est bluffant. Et on demande s'il joue pas mieux. Le deepfake joue pas mieux que Bruce Willis. Et on va refaire
un grand débat.
On va refaire tous les. C'est ce qui s'est passé il y a quelques. Quand ils avaient tourné un film, quand Kevin Spacey a commencé à être blacklisté, il avait tourné un film pour tout l'or du monde, si j'ai pas de bêtises, où il jouait un rôle. Et ils avaient pratiquement fini le tournage. Et le producteur a dit non, on annule le film, ou alors on refait toutes les scènes. Et c'est un autre acteur, Christopher Plummer, qui a pris sa place, qui a refait toutes les scènes. Et ils l'ont intégré dedans, ils ont retourné certaines scènes. Et au résultat, on ne tue pas le final. Donc là, ils auraient simplement pu.
Ils auraient pu faire appel à un deepfake. Futur, ils avaient commencé avec un autre acteur et après ils ont changé.
Tu peux changer, ça arrive de temps en temps.
Allez, on va se quitter comme promis avec la musique d'Eddie Mitchell, les Tuniques Bleues et les Indiens.
En hommage à la fameuse BD de Raoul Covin.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Restez avec nous sur Radio Campus 106,6. Ciao.
Ciao. À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
À t'entendre, faut croire que le bon Dieu t'a créé. Il s'est surestimé ou trompé. C'était à son image. C'est navrant. Il doit être moche de là-dedans. C'est pas clair dans ta tête, c'est pas bien rangé. Et y a autant de haine que d'amitié. Quant à l'amour, c'est rare, pas souvent. T'es handicapé du sentiment. J'ai pas confiance en l'être humain. C'est pas aujourd'hui ça remonte, ça vient de très loin. Au cours d'école à la récré entre gamins, on jouait aux tuniques bleues qu'exterminent les Indiens.
De campus. Et 19h.